BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est bientôt 18h, bienvenue si vous nous rejoignez comme tous les soirs, évidemment, en direct dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, 10 000 choses à vous raconter. D'abord, l'agence de notation Fitch qui va parler tard ce soir. Va-t-elle dégrader ou non la note de la France? On va le savoir, bien sûr. Et on en parlera lundi matin dans la foulée. Et puis plein de sujets ce soir également. Le Doliprane qui, ça se confirme, va passer sous pavillon américain. Sujet très sensible politiquement. Carlos Tavares qui va bien prendre sa retraite en 2026 chez Stellantis. Et puis les petites subtilités du budget qu'on découvre les unes après les autres. On va vous raconter tout ça dans le journal dans un instant. Et puis à 18h15, comme tous les vendredis, ce sont nos experts sans frontières, nos confrères de la presse étrangère, des chercheurs, des universitaires, des spécialistes, des questions européennes qui viennent porter leur regard parfois un petit peu acide aller sur la situation française et avec le budget présenté hier, il y a encore de quoi disserter. Voilà le programme, on est ensemble bien sûr jusqu'à 19h. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc le sujet, ça y est, tranché, c'est bien un fonds d'investissement américain que Sanofi va vendre ses médicaments sans ordonnance, dont le Doliprane. Sanofi ne sera plus qu'actionnaire à 49%. Le gouvernement réclame déjà des garanties sur l'emploi. Mathieu Pechberti.
Il n'a fallu que quelques heures pour que les politiques réagissent tour à tour. Le gouvernement demande au fonds américain CD&R de s'engager à maintenir en France le Doliprane. À la fois le siège d'Opella, la filiale mondiale de médicaments sans ordonnance de Sanofi, mais surtout les 1000 emplois et les deux usines dédiées à la fabrication du Doliprane. Le fonds américain accepte ces conditions, mais Sanofi doit toutefois verrouiller ses garanties qui devraient durer 5 ans. Bercy l'avait anticipé et précise que cette opération passera sous le contrôle des investissements étrangers comme l'impose la loi. Ce sujet politique sensible aurait été évité si Sanofi avait vendu le Doliprane au fonds français PAI, d'autant qu'il avait proposé un prix de rachat similaire à celui de CD&R de 15,5 milliards d'euros. Le fonds américain l'a finalement emporté car Opella réalise plus de 20% de son chiffre d'affaires aux États-Unis.
Voilà donc pour cette transaction, puis tout ça repose la question de la souveraineté pharmaceutique en Europe dont on avait beaucoup parlé après le Covid, on en reparlera avec nos experts, tout ça évidemment jusqu'à 19h. En France, les grandes manœuvres, je vous le disais, qui ont donc commencé depuis quelques heures chez Stellantis. Bonsoir Justine Vassogne.
Bonsoir Guillaume.
Parce que le groupe l'a donc officiellement annoncé la nuit dernière. Carlos Tavares va bien partir en 2026, il ne renouvellera pas son mandat, Justine.
Absolument, c'est quand même la fin d'une ère chez Stellantis. Carlos Tavares avait préparé le terrain la semaine dernière à notre micro. C'est maintenant officiel, il va quitter Stellantis début 2026. Pour partir à la retraite, c'est sa décision sur le groupe qui espère que cette clarification va permettre à Stellantis de se remettre en ordre de marche après son profit warning retentissant. Fini les rumeurs, on va arrêter de se demander tous les matins si Carlos reste ou part, nous explique-t-on. Reste que Carlos Tavares, hier considéré comme le surdoué de l'automobile, a vu son étoile pâlir à une vitesse incroyable, celui qui paraissait indispensable à Stellantis il y a quelques mois est aujourd'hui extrêmement fragilisé au sein du groupe, notamment auprès de son président et principal actionnaire John Elkann. John Elkann qui va superviser la recherche d'un successeur à Carlos Tavares, recherche qui a déjà commencé et qui devrait prendre fin à la fin de l'année prochaine. Carlos Tavares, qui est toujours membre du board de Stellantis, aura son mot à dire sur la question, en tout cas c'est ce qu'on nous dit.
Et au passage, il faut dire qu'il n'y a pas que Carlos Tavares qui va quitter le groupe, Justine.
Oui, pas mal de têtes sont tombés hier soir. Exit Nathalie Knight, la directrice financière du groupe qui était chez Stellantis depuis un an seulement, qui venait du monde de l'agroalimentaire. Sa position, on le savait, ne tenait qu'à un fil. Elle est remplacée par Doug Osterman, qui lui est un car guy, explique le constructeur. Il a travaillé, c'est le terme. Il a travaillé notamment chez General Motors avant de rejoindre Stellantis. Exit aussi le patron Europe du groupe qui est remplacé par Jean-Philippe Imparato, qui a un profil de vendeur. Et ça, c'est important parce que c'est quand même l'un des enjeux pour Stellantis. Il faut vendre des voitures. Il faut aussi renouer le dialogue, un dialogue qui est compliqué avec les concessionnaires. Aux États-Unis, le talon d'Achille de Stellantis. On change aussi de patron, une direction largement remaniée, donc qui devra encore répondre à Carlos Tavares pendant un peu plus d'un an, parce que c'est lui qui, malgré tout, est chargé de régler tous les problèmes opérationnels au sein du groupe. un an donc pour redresser la barre, ce ne sera pas de trop.
Voilà, et tout ça a été annoncé cette nuit pour nous à New York, hein, après une réunion du conseil d'administration
absolument
de Stellantis, tout un symbole. Merci beaucoup Justine. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. Airbus, de son côté, essaie de rassurer les marchés. Le groupe a redit aujourd'hui qu'il livrerait bien cette année 770 appareils comme prévu, malgré les problèmes auxquels il est confronté, bien sûr, avec ses fournisseurs. 18h04 en France. On attend donc de savoir, je vous le disais, si l'agence Fitch va dégrader ou non la note de la France ce soir. Sa décision est attendue dans la soirée. En attendant, on continue de décortiquer le projet 2025 de budget et le Rassemblement national est déjà à cran. Écoutez, Jean-Philippe Tanguy, pour le RN, qui le dit, c'est pas un budget de rupture.
Les dépenses ne baissent pas, elles continuent d'augmenter et il n'y a aucune réforme structurelle annoncée. Les classes moyennes et populaires sont bien mises à contribution, bien plus que les privilégiés et les grandes entreprises. Enfin, vous faites des choix économiques très surprenants et des choix considérables. La hausse soudaine du coût du travail, sans étude d'impact, fait au coin d'une table, comme si on pouvait remettre en cause des dispositifs sur le SMIC sans en réfléchir des conséquences et en toute urgence.
Voilà le député Jean-Philippe Tanguy, Rassemblement National aujourd'hui à l'Assemblée. L'opposition n'a pas fini de se faire entendre puisqu'on l'a appris aujourd'hui. Le gouvernement va proposer, toujours dans le cadre de cette discussion budgétaire, une hausse de la fiscalité sur le gaz. Cette fois, c'est Agnès Pannier-Runacher qui l'a annoncé aujourd'hui, sans rentrer dans les détails. Écoutez. Agnès Pannier-Runacher.
L'enjeu est également de travailler sur les niches brunes, au travers de l'augmentation du malus automobile, au travers de la suppression du taux réduit de TVA 5,5 sur l'installation de chaudières à énergie fossile, et enfin, par voie d'amendement gouvernemental, au travers d'une hausse de la fiscalité sur les billets d'avion et sur le gaz. Ce travail n'est pas terminé, bien sûr. Avec mon équipe, on va repasser l'ensemble de ces niches brunes de manière à pouvoir éclairer au maximum la représentation nationale. Mais il est important de donner des signaux prix cohérents entre solutions carbonées et solutions décarbonées.
Voilà, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. Et puis, autre mauvaise nouvelle dans le cadre de ce budget pour les particuliers. Ça va concerner ceux qui louent des logements meublés. En cas de revente, apparemment, ils vont passer à la caisse. Marie-Cœur de Roy.
Dans le viseur, le statut du loueur meublé non professionnel, statut qui, grâce au système de l'amortissement, permet à une majorité des bénéficiaires de ne payer aucun impôt sur les loyers qu'ils perçoivent. C'est le cas de 70% d'entre eux. Le gouvernement souhaite donc alourdir la fiscalité de ses propriétaires au moment de la revente du bien pour, espère-t-il, les réorienter vers la location vide dont on manque cruellement. Une erreur, selon le conseiller en gestion de patrimoine Stéphane Descartiers.
Ce que gagnait les investisseurs, les bailleurs, en termes d'économie d'impôts, ils vont les repayer deux fois, trois fois à la sortie. Donc, plus personne ne fera de meublé à l'amortissement, y compris pour des besoins très importants pour les étudiants, les jeunes actifs, etc. Donc, si on ne fait que taper sur le meublé et qu'on n'améliore pas les conditions des bailleurs en nu, là, on aura deux marchés qui seront morts, quoi.
Concrètement, nous dit-on, en l'état, le projet de loi de finances multiplierait par 3 la base taxable pour le calcul des plus-values à la revente. Le gouvernement chiffre, lui, cette mesure à 200 millions d'euros de recettes supplémentaires pour l'an prochain.
Voilà, mauvaise nouvelle potentielle pour les propriétaires de logements meublés. Marie-Cœur de Roy. Et puis, ça y est, c'est la saison. On a des premiers résultats trimestriels qui commencent à tomber du côté des États-Unis. Bonsoir, Antoine.
Bonsoir, Guillaume.
Vous connaissez des banques américaines. Il y a eu quelques chiffres, là, cet après-midi, apparemment.
Très impressionnant. Ouais. Bénéfices de JP Morgan, de Wells Fargo, de Bank of New York Mellon, de BlackRock également, ouais, qui publiaient ces résultats. Alors partout, il y a un fil conducteur. Ce ne sont pas des résultats mirobolants, ils sont même en baisse sur le trimestre écoulé, mais ils sont largement supérieurs aux attentes pour deux facteurs. Premièrement, parce que les banques américaines ont su se couvrir contre du gros temps, ils ont fait pas mal de provisions pour se protéger contre d'éventuels défauts de paiement de certains de leurs clients. Et puis, c'est le cœur de la machine qui marche toujours aussi bien, les marges d'intérêt, ouais, la rentabilité des capitaux prêtés. Et ça marche très très bien. Et du coup, JP Morgan a publié des résultats sensiblement supérieurs aux attentes, franchement. Wells Fargo également, Bank of New York aussi. Et ce sont des titres qui gagnent entre 5 et 6% en ce moment à Wall Street et qui sont largement responsables de la hausse de Wall Street là en ce moment, qui se tient bien d'ailleurs avec un Dow Jones qui avance plus vite que le Nasdaq. C'est quand même vu par les analystes de très bon augure pour le reste de la saison de résultats.
Voilà les banques qui ouvrent en général, enfin qui sont parmi les premières à ouvrir cette saison de résultats du troisième trimestre. Merci beaucoup Antoine, on fait un point dans la séance dans deux minutes à Paris. Juste le temps d'aller faire un tour du côté du Tricastin, dans la Drôme. Figurez-vous que là-bas, Orano vient de démarrer des travaux pour agrandir son site d'enrichissement d'uranium. Énorme projet qui doit lui permettre bien sûr de gagner des parts de marché, qui doit permettre à l'Europe aussi de redevenir un petit peu plus souveraine sur ce secteur ô combien stratégique. Reportage sur place, Raphaël Couder.
La première pierre est posée. Sur ce chantier de 20 000 mètres carrés, Orano s'apprête à augmenter significativement ses capacités. D'ici 2028, le groupe va pouvoir enrichir 30% d'uranium supplémentaire, explique Frédéric Bernasconi, le directeur de ce programme d'extension.
On a déjà 14 modules existants, donc on va en rajouter 4. Et donc ce seront des modules sur lesquels seront installées des centrifugeuses.
La centrifugeuse, c'est l'équipement indispensable qui permet d'enrichir l'uranium et donc d'en faire du combustible nucléaire. Un procédé industriel aussi stratégique que secret, maîtrisé par seulement une douzaine d'usines dans le monde. Le russe Rosatom domine aujourd'hui largement le marché. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine, l'envie de souveraineté des États est en train de rebattre les cartes, constate Nicolas Mas, le directeur général d'Orano.
Pour Orano, c'est également clairement une opportunité pour développer nos parts de marché dans l'enrichissement. Aujourd'hui, nous ne représentons que 12% des parts mondiales, quand la Russie représente 43%. Et on envisage de gagner des parts de marché à leurs dépens.
Orano voit d'ailleurs déjà au-delà de ce site du Tricastin. Le groupe négocie actuellement avec les autorités américaines pour ouvrir une nouvelle usine d'enrichissement d'uranium aux États-Unis dans l'État du Tennessee.
Raphaël Couder avec nous depuis le Tricastin dans la Drôme pour BFM Business. 18h10, on va sur les marchés tout de suite. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir.
Comment ça s'est passé donc ce vendredi à la Bourse de Paris?
Ben justement plutôt bien. Alors plus 0,48% en clôture à 7577 points. Puis 0,5 c'est le chiffre sacré. On fait 0,5 sur la semaine. 0,5 depuis le 1er janvier. On redevient
ça alors
légèrement bénéficiaire. Ben oui, pour l'indice vedette de la Bourse de Paris. Du côté des bonnes performances du jour, ben Airbus qui a confirmé ses carnets de commandes, son niveau de livraison. Là franchement, le titre en avait bien besoin et ça fait deux jours de suite qu'il signe de belles performances. Les investisseurs sont rassurés. Le titre gagne quasiment 4% en clôture. 3,92, 132,92. Téléperformance aussi, belle performance à plus de 17, 88,42 €. Alors en revanche à la baisse, Carrefour qui a bien décroché, plus 2,9% à 15 €. Puis à noter Stellantis avec tous les changements actés à la tête du constructeur et surtout le départ de Carlos Tavares à la retraite en début d'année prochaine. Donc le titre, bon, ça va, résiste plutôt bien. Moins de 2,8%. 11,85 €. Le CAC, donc plus 0,48, 7577 points. Et puis, attention au pétrole, qui force, si on était au-delà des 79 $ tout à l'heure, on est quasiment à ce niveau-là, 78,97.
Merci beaucoup, Antoine. On regarde Wall Street, évidemment. C'est la mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones qui progresse plus 0,7%, 42752 points. L'indice Nasdaq qui grappille 0,36%, 18348 points en 30 secondes. Antoine, est-ce qu'il y a un truc à retenir là?
Un marché qui est un petit peu partagé, justement, entre les bons résultats des banques dont on a parlé, mais aussi des inquiétudes autour de la tech, notamment autour d'AMD, qui a présenté une puce spéciale pour développer l'intelligence artificielle, mais vraiment qui suscite absolument pas l'enthousiasme des analystes. Le titre fait rien en bourse. Nvidia, c'est même, est en baisse.
Only Nvidia, quoi, toujours.
Et puis, alors, surtout Tesla, avec le grand show façon Blade Runner hier d'Elon Musk, avec ses robots taxis, grand, petit format, avec ses Optimus, machin et tout. Le titre est en baisse de plus de 9%. Non, moins 7,6%. Il vient de réduire un petit peu ses pertes. Enfin, bon, c'est un petit peu comme quand Apple annonçait une nouveauté disruptive. Généralement, c'était salué par une très forte baisse, donc il ne faut pas trop s'inquiéter.
Bien.
C'est vrai que Tesla est un titre un peu particulier.
Absolument. Merci beaucoup Antoine. 18h12, nos experts arrivent dans un instant. Les experts sans frontières pour porter leur regard un petit peu acide. Faut bien, ça fait partie du jeu sur la situation de la France. On va évidemment beaucoup parler du budget, de la façon dont Bruxelles regarde les premiers pas de Michel Barnier du gouvernement. Tout ça jusqu'à 19h, évidemment. A tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business. Les experts sans frontières.
Allez oui, 18h17, ils sont là comme tous les vendredis, nos experts sans frontières, pour décortiquer ensemble l'actualité française vue de l'étranger. Bien sûr, nos experts, chercheurs universitaires, spécialistes des questions françaises, européennes, ils sont avec nous. Pascal Johannin est avec nous ce soir. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Guillaume Closa est avec nous. Guillaume, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir Guillaume.
Président d'Europa Nova. Puis il est en visio avec nous, comme on dit. C'est Christina Van Bergen qui est avec nous. Bonsoir Christina.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'université de Florence. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 19h sur BFM Business. Alors, beaucoup d'actu, la France qui attend évidemment. Nous attendons tous le verdict ce soir de l'agence Fitch, la première des trois grandes agences à parler cet automne. Ça tombera dans la soirée. Le gouvernement espère évidemment que la note n'évoluera pas dans le mauvais sens. Est-ce qu'il s'en est donné les moyens avec cet effort, entre guillemets, à 60 milliards d'euros? Écoutez ce que disait ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, qui jouait un petit peu les pères fouettards ce matin. C'est normal, ça peut rassurer les agences, quelque part. Écoutez.
Nous ne pouvons pas laisser déraper nos comptes. Nous devons, effectivement, réduire ce déficit en faisant des économies.
Est-ce que ces économies seront suffisantes pour ramener le déficit à 5% l'an prochain, ou est-ce qu'il y aura une deuxième couche?
Il y aura, pendant le débat parlementaire, un complément d'économie, nous l'avons dit dès la présentation du texte, à hauteur de 5 milliards d'euros, ce qui permettra effectivement d'atteindre les 60 milliards d'euros sur lesquels nous nous sommes engagés. Ces 60 milliards d'euros, ce n'est pas une règle d'or et un chiffre magique que nous avons sorti comme cela, c'est tout simplement la condition pour pouvoir atteindre en 2025 5% de déficit public. Mais attention, 5% de déficit public, c'est pas la fin de l'histoire. Nous serons encore en train d'augmenter notre dette avec 5% de déficit public. Mais si on ne fait pas déjà cette marche ambitieuse en 2025, le retour sous les 3% de déficit public à horizon de 2029 ne sera pas possible.
Voilà Laurent Saint-Martin ce matin. Est-ce que ça aura rassuré l'agence Fitch? Bon, on aura peut-être une partie de la réponse ce soir, 22-23h, on verra bien. Est-ce que vous dites, quand vous regardez, alors cet effort aujourd'hui, on verra ce qu'il en restera en décembre, évidemment, de 60 milliards. Est-ce que vous dites, on fait le début d'une esquisse de commencement de petits efforts similaires à ce que certains pays de la zone euro ont fait au plus fort de la crise de la dette? Guillaume Closa, comment est-ce que vous jugez cet effort, entre guillemets, vous, personnellement?
C'est un premier effort.
C'est un premier effort.
Il doit s'inscrire dans une dynamique plus large.
Quand on dit ça, c'est que, ouais, on n'est pas...
Non, convaincus. Mais, enfin, d'abord, soyons honnêtes, personne n'avait vu venir ce déficit un point et demi supérieur à ce qui était prévu.
Alors ça, on en parlera après.
Non, mais oui, c'est un sujet quand même. Hein.
Oui.
Personne n'avait vu venir. C'est pas rien. Il y a aucun pays européen qui est dans cette situation. Donc, il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est pas quelque chose de normal. J'ai écouté le président de la Cour des comptes.
On va l'écouter dans un instant, on va l'écouter. Mais sur la portée de l'effort, véritablement, Guillaume.
Donc, on a besoin de faire cet effort, mais on a besoin de comprendre les dynamiques pour savoir la nature de l'effort qu'on doit faire. Et on ne s'en sortira qu'avec une stratégie de moyen-long terme d'amélioration de l'impact de la dépense publique. Parce que, manifestement, la France est un des pays où un euro dépensé est a beaucoup moins d'impact que dans la plupart des pays européens.
Ouais,
et donc là, il y a un vrai souci, parce que en fait, ça rend tout le monde malheureux. Tout le monde a l'impression qu'on n'en fait jamais assez, personne n'est satisfait, et donc il y a un sujet politique, mais il y a un sujet de compréhension de l'impact de la dépense publique. Le président de la Cour des comptes l'a dit, maintenant il y a un travail de fond à faire pour comprendre ce qui s'est passé, et comprendre comment on peut mieux dépenser, parce que manifestement, les Français ne savent pas dépenser l'argent public efficacement.
Pascal Johannin, comment est-ce que vous regardez cet effort comparé à ce qu'ont connu certains pays de la zone euro en leur temps, il y a une dizaine d'années?
D'abord, il est sur la table. C'est donc un louable. On peut critiquer éventuellement les choix qui peuvent être adancés. Il y a beaucoup de flou encore, donc on va voir en effet ce qui va être. Mais c'est un gage de crédibilité que nos partenaires européens attendent. On a cette situation qui est une des pires de la zone euro. On n'est pas tout seul. Il y en a quelques autres qui sont pas loin de nous, notamment en termes d'endettement aussi.
Oui, mais d'accélération à cette vitesse.
Il ne faut pas critiquer le choix qui est fait, puisque au moins déjà il y a une prise de conscience et il y a un premier jet qui existe. Bien évidemment, on pourrait dire que ça sera peut-être pas suffisant, et Laurent Saint-Martin l'a laissé entendre, qu'il y a peut-être en effet sur cette réduction beaucoup de choses sont chiffrées sur la partie imposition nouvelle.
Oui.
On se refait pas, hein, on a encore le taux de fiscalité un des plus importants d'Europe et on continue à augmenter les impôts, et sachant que la masse de ceux qui payent les impôts se réduit, puisqu'il y a quand même la moitié des Français qui n'en payent pas, hein, faut le savoir.
Oui, donc, oui,
voilà.
Oui.
Et donc les dépenses, par contre, on a l'impression que c'est un peu plus flou et que ben, y a peut-être des choses qu'il faudra creuser encore pour arriver à vraiment 60 milliards. Et je pense que 60 milliards, comme Guillaume l'a dit, c'est que la première marche, la première étape, parce que si on veut en effet obtenir ces 3% dont parlait Laurent Saint-Martin, le ministre, c'est ce que la Commission va réclamer à la France pour savoir cette trajectoire de réduction des dépenses.
2029,
dans 4 ans. C'est 4 ans. En Union européenne, on a quand même des temps longs. Donc c'est sur 4 ans. Et on voit bien déjà que pour arriver à 5%, donc dans l'année prochaine, ça va déjà être difficile. Mais au moins, l'effort est là. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la prise de conscience. Alors maintenant, il faudra vérifier peut-être que les mesures vont dans le bon sens. Et certains de nos partenaires vont regarder, en effet, quelles sont les mesures qui sont prises.
Alors attendez, juste donner la parole à Christina qui attend. Christina Van Bergen, professeure à l'université de Florence. Comment est-ce que vous regardez cet effort, entre guillemets? Est-ce que vous le qualifiez d'effort par rapport? C'est un peu la question qu'on posait finalement à ce qu'ont connu en leur temps certains pays de la zone euro qui ont eu affaire à la Troïka notamment.
Oui, donc en effet, je pense tout d'abord qu'on est dans le cas classique d'un budget d'austérité. Nous savons que l'Allemagne
Vous assumez le terme d'austérité? Pour vous, on est dans l'austérité?
Oui, puisqu'il s'agit d'une réduction importante dans les dépenses publiques, puisqu'il y a une forte dépendance aux impôts pour équilibrer le budget. Et on sait que le budget est déjà contesté de toutes parts. Personne n'est satisfait du mélange d'hausse d'impôts et de réduction des dépenses. Les macronistes disent non aux réductions d'impôts et ont présenté leur propre plan de réforme. Le Rassemblement national et l'Alliance de gauche s'opposent au gel de pensions. Pendant 6 mois, on sait que les députés locaux rejettent les coupes budgétaires, les employeurs mettent en garde contre la réduction d'exonération fiscale, les assureurs s'opposent au transfert des dépenses de santé, les petites et les moyennes entreprises ne veulent pas que le gouvernement touche aux apprentissages, et finalement aussi le ministre de la Justice est contre son propre budget. Donc il y aura des économies de 60 milliards d'euros avec un mélange de hausse d'impôts et de réduction de dépenses publiques, et tout cela fera mal sans doute. Je pense que la stratégie de Monsieur Barnier était de commencer par un effort d'austérité sérieux en 2025. Un contrepartie de l'extension de délai pour atteindre l'objectif de déficit de 3% de 2 ans jusqu'en 2019. Donc, certains macronistes soupçonnent qu'ils dramatisent la situation budgétaire, en particulier la prévision déficitaire de 7% pour l'année prochaine. Certains ont plaidé pour passer par des restructurations, par un budget rectificatif en 2024.
Mais
M. Barnier préfère tout miser sur le budget de l'année prochaine. Oui. Et donc, lorsqu'on voit l'impact et donc la diversité des opinions, bon, pour moi, c'est clair, on est dans un cas d'austérité.
Ça va être très sûr. Mais elle a raison, Christina Guillaume Closa. Quand on veut être crédible, il faut frapper fort d'entrée de jeu,
Frapper fort d'entrée de jeu, je suis désolé, mais le déficit est 1,5 point plus élevé que prévu.
Oui.
C'est énorme.
Alors sens que ça vous tarde. Vous savez, écoutons Pierre Moscovici, justement, qui s'interrogeait ce matin, qui disait « Comment n'a-t-on pas pu voir ce déficit s'emballer à ce point ?» Et il dit « J'ai pas de réponse, mais j'ai beaucoup de questions. » Écoutez Pierre Moscovici.
Mais une chose que je sais, c'est qu'il est indispensable de comprendre comment, effectivement, en un an, on est passé de 4,4% de budget voté à 6,1% de budget exécuté.
À qui la faute? Où est-ce que ça
je vous dis, il est indispensable de le comprendre. Et il ne s'agit pas de faire le procès de tel ou tel, ni d'un politique, ni d'administration. Non, il suffit de comprendre pourquoi. Parce que si on ne comprend pas, et si des mécanismes profonds sont à l'œuvre, ils peuvent se reproduire. Et ce dont je n'ai pas envie, c'est que nous nous retrouvions dans un an, dans la même situation qu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le Haut Conseil est là et pour laquelle il donne ses opinions qui visent à éclairer les débats publics.
Vous souhaitez une enquête?
Je souhaite qu'on sache pourquoi et comment cela s'est produit, parce que je pense que ce n'est pas encore une question de responsabilité personnelle, c'est pas ça le sujet, mais on a besoin de savoir pour éviter la reproduction de certaines erreurs éventuelles.
Voilà, Pierre Bosco, qu'est-ce qui vous inquiète, Guillaume? Que Bercy ait menti ou qu'il y a un problème de compétence? C'est quoi pour vous le problème?
Ni l'un ni l'autre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la classe politique française, quels que soient les partis, de l'extrême droite à l'extrême gauche, veut toujours qu'on augmente le budget, qu'on augmente les dépenses. Et donc là, il y a un problème. Personne ne s'est intéressé à l'amélioration de la dépense publique. Il y a une révolution technologique qui pourrait faire que, et qu'on aurait dû enclencher déjà depuis une dizaine d'années, qui pourrait faire qu'on se connaît beaucoup mieux les gens, de manière beaucoup plus égalitaire, pour beaucoup moins cher. On ne l'a pas enclenché. Et donc j'ai l'impression, si vous voulez, que mon pays, dont je suis très fier et que je considère comme un pays de progrès, d'innovation, etc., n'est pas capable de mettre en œuvre pour lui-même les grandes innovations qui permettent de rénover, de transformer les services publics. J'ai dirigé une institution.
Oui, mais est-ce que c'est un problème franco-français?
Oui, c'est un problème franco-français. J'ai dirigé une institution européenne qui s'appelle l'Union européenne de radio-télévision. Partout, les services publics se sont réunis pour, pas forcément pour dépenser moins, mais pour dépenser mieux. Et en France, personne ne veut rien faire parce que réunir les services publics de l'audiovisuel, c'est enlever l'identité.
On a tendance à en créer
et dans
de
tous
nouveaux
les secteurs, c'est
pour
pareil.
Que ça.
Et donc, on crée des machins partout en France. Tout le monde le veut. Et donc, il y a un sujet culturel français.
Bon, d'accord avec ça. Est-ce qu'on est sur un sujet culturel français?
Alors,
quand Pascal Jouanin,
la France a une tendance à en effet être à avoir une réputation de panier percé. Mais encore une fois, on n'est pas les seuls.
Donc, d'accord, même si
on n'est pas les seuls à être en indélicatesse avec les règles européennes. Mais on a une tendance en effet à dépenser et pas savoir réformer. Et ce que nous reprochent nos partenaires européens, c'est qu'on est frileux dans les réformes et que y compris Michel Barnier, qui a une très bonne réputation européenne, il est connu parce qu'il a été deux fois commissaire européen, etc. On s'est dit, mais est-ce qu'il va y arriver? Il est sérieux,
On en reparlera, mais on semble lui donner crédit pour l'instant.
Est-ce qu'il va y arriver? Parce que finalement, on annonce des choses, puis au dernier moment, comme l'a dit un peu Christina, il y a des gens qui râlent, qui machinent, etc. Et on voit bien que nos partenaires européens, eux, ont fait des réformes structurelles qui ont des effets à long terme et que nous, on a du mal à enclencher le début d'une amorce. Je prends l'exemple des retraites.
Est-ce que vous pouvez les faire? Est-ce que ces réformes, on peut les faire dans le contexte actuel en absence de majorité, ont
lié le même problème de vieillissement de la population, d'une démographie qui est déclinante. En France, ça va mieux qu'ailleurs, mais quand même. Et dans tous les pays européens, on a repoussé l'âge de la retraite. Chez nous, extrême droite, extrême gauche, on regarde la retraite à 60 ans, alors qu'on sait que c'est plus viable. Et que passer de 62 à 64, on fait râler les Français, mais ça n'est pas suffisant. Et on sait que c'est... Et les Italiens, aujourd'hui, nos amis transalpins, pas les Allemands rigoristes, etc., sont en train de dire qu'il faut aller à 70 ans. 67 d'abord et 70 après. Donc, ce débat-là, on va l'avoir. Alors, si on n'accepte pas déjà la première réforme qui était arrivée, comment on va accepter une autre réforme, sachant que sur ce sujet-là, c'est un vrai gain pour en effet les finances publiques.
Pour les finances publiques, c'est Christina Van der Beggen, donc à Florence. Est-ce que vous aussi, vous dites, on commence chez vous, par exemple en Italie, on commence à regarder la France comme le vilain petit canard, notamment concernant cette réforme des retraites, sur laquelle vous posez des questions. C'est le ministre un de vos ministres de l'économie qui disait récemment, on réfléchit aux 70 ans dans la fonction publique désormais, hein.
Oui, mais bon, avant de répondre à ça, laissez-moi répondre à la question précédente concernant une certaine suspicion par rapport à la preuve d'opacité de la France.
Allez-y.
Puisque, en fait, la question la plus importante à l'heure actuelle, c'est si M. Barnier réussira-t-il là où les gouvernements précédents ont échoué, puisque en regardant les 25 dernières années, la France a toujours été très optimiste dans ses trajectoires budgétaires. En fait, la dernière fois...
L'Italie aussi, Christina.
Oui, tout à fait. le déficit budgétaire n'a jamais vraiment correspondu aux prévisions des programmes de stabilité. Et la dernière fois qu'une telle augmentation de révision a eu lieu dans l'Union européenne, c'était en Grèce, juste avant le début de sa crise financière. Il est d'autant plus important que la France respecte ses promesses budgétaires afin de démontrer sa crédibilité à Bruxelles, mais aussi par rapport au marché financier, en assurant que l'absence de majorité politique n'est pas une raison de douter de leurs engagements.
Oui.
Mais cela aussi peut se retourner politiquement puisque les partis politiques de gauche comme de droite ne placent pas nécessairement les objectifs de déficit ou la réputation financière du pays au-dessus de leurs préoccupations nationales ou locales.
Bien.
Chaque parti ressent le besoin de mettre en avant son identité avec un œil sur les élections présidentielles. Et donc, justement, il y a beaucoup de... des discussions autour de cette problématique.
Voilà. Oui, Guillaume, d'un mot et puis une pause après.
Deux choses. Michel Barnier, il est arrivé il y a 15 jours, 3 semaines.
Oui, un mois.
Mais
on paraît loin.
Le gouvernement a 15 jours.
Le gouvernement a 15 jours. Et donc, faire en 15 jours un budget, c'est une mission quasiment impossible.
Oui.
Et on ne comprend pas encore très bien, comme l'a dit Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, les mécanismes qui ont été à l'œuvre pour ce déficit excédentaire budgétaire. Et donc, il faut les comprendre pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Donc, il est obligé de faire, non pas un budget d'austérité, mais un budget d'urgence pour essayer d'arrêter l'hémorragie.
Ceci explique peut-être, on marque une pause, ceci explique la mansuétude dont font part les marchés et même les dirigeants européens. Mais on va reparler dans un instant, 18h32, on est avec nos experts sans frontières jusqu'à 19h sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 18h36. Ouais, les experts sans frontières, bien sûr, tous les vendredis, 18h36. On est avec Pascal Johannin pour la Fondation Robert Schuman, Guillaume Closa pour Europa Nova, puis Christina Van Bergen qui est toujours avec nous depuis Florence, professeur à l'université de Florence, bien sûr. Bon, on parlait de ce budget et de Michel Barnier qui promet à Bruxelles de ramener les déficits sous les 3% ou à 3% en 2029. Expliquez-moi pourquoi Bruxelles gobrait aujourd'hui les belles promesses de la France. Écoutez, tiens, Thierry Breton ce matin, qui était ministre de l'économie il y a 20 ans, qui comprendrait que Bruxelles nous regarde de travers aujourd'hui. Écoutez son point de vue.
À partir du moment où vous êtes un membre fondateur de l'Europe, et un père de l'Europe, on va dire, et la France a joué un rôle très important, et que effectivement, notre Europe, elle fonctionne par des engagements qui sont pris, on appelle ça des traités. À partir du moment où la France signe ces traités, eh bien, si vous êtes un élément important de l'Europe, vous devez les respecter.
La France s'affaiblit.
Mais à partir du moment où un pays, et surtout un pays comme la France, ne respecte pas les traités, bien entendu que la France a moins de voix. Lorsque j'étais ministre des Finances, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'Allemagne était à 67%, la France était à 64%. Dans les réunions de l'Eurogroupe, qui sont les réunions où réunissaient les ministres des Finances, quand le ministre des Finances, qui s'appelait Pierre Steinbrück, allemand à l'époque, disait quelque chose, je lui disais, Pierre, c'est bien ce que tu dis, mais fais ce que nous avons fait, nous, en France, pour pouvoir effectivement, ensuite, permettre de donner des recommandations aux autres. Aujourd'hui, l'Allemagne est à 65%, nous sommes à 112%. Vous vous rendez compte, il y a 50 points d'écart aujourd'hui, c'est énorme.
Voilà, il parlait de déficit, de pourcentage de déficit du PIB, tout le monde a bien compris. Il a raison, peut-être Thierry Breton, pourquoi est-ce que Bruxelles gobrait maintenant les promesses de la France, surtout avec un gouvernement dont on ne sait pas combien de temps il va durer finalement.
C'est sûr que là, on est attendu au tournant, mais c'est un sujet pour lequel la France, c'est le point faible de la France depuis longtemps. C'est en effet sa mauvaise gestion des finances publiques et en effet avoir laissé déraper. Donc, on est sanctionné aujourd'hui, il y a une procédure de déficit excessif qui a été prise au mois de juin. Il y a 6 autres pays que la France qui ont été en même temps. Et donc, on a eu un petit délai jusqu'au 31 octobre, parce que le gouvernement n'étant pas en place à ce moment-là, on a été obligé de demander un délai. Mais en effet, Michel Barnier, qui connaît bien les astuces européennes, sait qu'en effet, on ne va pas le sanctionner a priori, mais on va regarder exactement dans ce qu'est la feuille de route qu'il va donner, avec cette trajectoire qu'il va un peu être obligé de chiffrer, pour montrer que c'est pas du flan et que c'est vraiment quelque chose qui va être crédible. Alors en effet, c'est sur 4 ans, on peut éventuellement avoir un délai supplémentaire, mais ça va être regardé puisque chaque semestre, tous les budgets des pays européens et leurs tendances sont examinés et on peut gentiment rappeler à l'ordre l'élève un peu turbulent. Donc là, pour le coup, l'exercice, c'est un examen de crédibilité.
Oui.
Soit, en effet, ça sera quelque chose qui paraîtra sérieux, sensé et réaliste, soit on dira, le compte n'y est pas et ça ne va pas et vous pouvez refaire votre copie.
Cette feuille de route, cette copie d'ici 2029, Guillaume, vous me confirmez, il faut non seulement dire du point de vue chiffré où on va, mais je crois qu'il faut expliciter la manière dont on y va. C'est-à-dire, quelles réformes vous faites d'ici là, d'ici 2029, pour arriver à ce résultat ? On est d'accord.
C'est pour ça que le Premier ministre...
Et ça, est-ce qu'on peut le pondre en quelques semaines ? Pardon.
Non, mais on va lui laisser... La vérité, c'est qu'on va lui laisser du temps. Il va donner des grandes directions. Il va faire quelques propositions concrètes. Et puis, on va lui laisser du temps, une certaine indulgence.
Mais on ne sait même pas s'il sera là en janvier encore.
Oui, mais on est obligé en politique de discuter avec les dirigeants en place. On n'imagine pas, et secondo...
J'entends Gentiloni qui disait ce matin, cette semaine, discussion prometteuse. Lui, il s'en va dans quelques semaines, c'est pareil. Enfin,
je veux dire. Et l'Italie est aussi... le gouvernement italien est obligé de rendre aussi une copie, etc.
Oui,
donc, il n'y a pas de passe-droit pour la France. On va écouter...
On vient à vous dans un instant, Christina.
Donc, il n'y a pas de passe-droit pour la France.
La politique, c'est faire confiance à ceux qui sont en place. Il se trouve que Michel Barnier, il est crédible à l'échelle européenne. Michel Barnier n'a jamais été un dépensier. Il a géré les JO d'Albertville dans le respect des engagements qu'il avait pris. Enfin, c'est quelqu'un qui est crédible. Et ça a quand même du poids. Il donne rapidement des premiers signes de bonne volonté. Tout le monde sait qu'il a une équation politique qui est extrêmement compliquée. Et en même temps, tout le monde sait que personne n'a intérêt à le faire tomber tout de suite. Donc il a 1 à 2 ans devant lui. Et la vérité, c'est qu'aucun parti de l'extrême droite à l'extrême gauche n'a envie de gérer ce merdier budgétaire. Et dans ce cadre-là, moi je pense que Barnier peut durer 1-2 ans peut-être jusqu'à la fin du mandat.
Christina, on vous a fait attendre, professeur à Florence. Chez vous en Italie, comment est-ce qu'on regarde ça? Est-ce qu'on se dit Michel Barnier peut être l'homme providentiel, le celui dont la survie politique est questionnée en permanence finalement?
Bon, premièrement, ponctuellement, je voudrais dire que si sa majorité à l'Assemblée nationale, le gouvernement peut utiliser l'article 49, paragraphe 3 de la Constitution française pour faire passer le budget. La question est de savoir à quel stade du processus budgétaire cela se produira et combien de débats et d'amendements il acceptera avant de tirer la sonnette d'alarme. Donc cela dépendra beaucoup de la toxicité du débat budgétaire au cours de la semaine prochaine. Mais maintenant, pour revenir à votre discussion, à la remarque de Monsieur Breton, je suis tout à fait d'accord. La France doit être un exemple dans l'Union européenne puisqu'il y a des règles budgétaires. Le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3% de PIB, la dette publique doit rester en dessus de 60%. Et je me rappelle qu'en juin, lorsque la France a reçu le premier appel de la Commission européenne, dans un contexte, disons, électoral, la Commission européenne a le vice-président de la Commission européenne, M. Dombrovski, qui apparemment va rester en charge de l'économie, a précisé qu'il attend avec impatience...
Qui a un discours un petit peu plus tenace, un petit peu plus sec sur ces questions apparemment. Hein.
Oui, il attend de recevoir les plans structurels et budgétaires nationaux des États membres qui réduisent la dette et le déficit. Effectivement, on peut se poser la question si la France va recevoir un nouveau délai. Et il y a eu des cas où la Commission européenne a accordé beaucoup des délais, mais tout dépend si, par exemple, la France doit présenter un plan détaillé et réaliste pour réduire son déficit. Cela inclut des mesures concrètes, des économies, des dépenses publiques et l'augmentation des impôts ciblés. Ils vont tenir compte aussi du contexte économique. Si la conjoncture économique en Europe reste difficile, la Commission pourrait faire preuve de flexibilité, des circonstances exceptionnelles comme les crises économiques, chocs externes, la guerre en Ukraine. Aussi, il faut prouver qu'il y a un suivi régulier de la part de France et évidemment aussi la réaction des marchés, ça c'est très important.
Bien.
Donc en conclusion, tout dépend de la présentation d'un plan budgétaire solide, de l'évolution du contexte économique et de l'engagement clair de la France à respecter ses objectifs financiers.
Ok, donc fin octobre, on donne des chiffres et puis quand on veut, on explique comment. C'est ça en gros ce qui va se passer.
Non. Michel Barnier va déjà la semaine prochaine à Bruxelles pour tâter le terrain, présenter sa philosophie de manière informelle. Donc la démarche, en fait, elle est lancée. Je pense que le Premier ministre veut être crédible et veut se donner les moyens de la crédibilité. Maintenant, on va voir le talent qu'il va déployer pour gérer le processus budgétaire dans un contexte qui est compliqué.
Donc vous me dites, Bruxelles est prêt à donner du temps, ne nous regarde pas forcément de travers.
Mais pas trop. Mais pas trop parce que vous avez...
On a parlé de
Valdis Dombrovskis, qui a été Premier ministre letton, qui a lui aussi eu une crise à un moment donné et qui a fait des réformes alors qu'il était chef du gouvernement. Et donc, quand on a des pays qui ont fait des réformes, qui se sont serrés la ceinture, Christina Taylor parlait d'austérité, on n'y est pas encore, et qui voit la France qui fait un peu cigale, pays du Club Med, bon, on fait un peu des choses... ça leur plaît pas. Il n'y a pas que, il n'y a pas que la Lettonie. Il y a d'autres pays qui sont autour, même nos voisins allemands nous regardent en disant, bon, alors, est-ce que tu vas être enfin sérieux?
Donc. Et Dombrovski est un adversaire, voilà. Est un interlocuteur
donc,
plus coriace.
Il y a plein de gens dans le circuit européen qui sont en effet un peu des rigoristes, peut-être trop, mais il va falloir qu'on essaye de convaincre ces gens-là qu'on va dans le bon sens.
Mais on le fait pour nous, parce que ça, c'est aussi ce qui est très intéressant dans ce que dit le Premier ministre et son ministre du budget, c'est qu'il ne met pas l'argument européen en premier.
Ouais.
Ce qu'on fait, on le fait pour nous, parce qu'on n'a jamais autant dépensé.
Ouais.
Donc, il y a une hémorragie.
Les Français ont du mal à comprendre qu'on dépense plus.
Là, il y a une hémorragie et on ne sait pas d'où elle vient.
Bon,
il faut d'abord comprendre.
Bruxelles.
Mesure d'urgence, et puis après, on déploie un temps pour transformer la dépense publique.
Bruxelles est prête à nous donner du temps. Un petit peu, j'entends ce que vous dites, Pascal. Les Allemands, écoutez ce que disait Christian Lindner cette semaine, le ministre allemand libéral des finances, qui a dit, message...
Prêt à nous laisser du temps.
Message adressé à qui vous savez, il ne faut pas plaisanter avec les finances publiques, il ne faut pas plaisanter avec les marchés financiers. Écoutez l'allemand Christian Lindner cette semaine à Strasbourg, tiens.
Les règles budgétaires européennes ne sont pas respectées. Elles sont pourtant importantes pour que l'Union européenne reste stable, pour notre union monétaire en particulier. Il faut réduire les déficits, il ne faut pas plaisanter avec la crédibilité des finances publiques vis-à-vis des marchés financiers.
Voilà Christian Lindner. Donc c'était à Luxembourg, c'était pas à Strasbourg cette semaine. Alors regardez, c'est marrant parce qu'il fait cette déclaration et quelques heures après, regardez si vous nous voyez à la télévision, il y a cette photo. Hop, là, il est en train de boire un coup apparemment avec Antoine Armand, le nouveau ministre français de l'économie et des finances. C'est que la déclaration de Lindner, même si c'est une pensée un peu dominante en Allemagne, il y a certains en Allemagne qui ont dit on ferait bien déjà de commencer par balayer devant
nous. Intéressant parce que Christian Lindner, d'abord, il est membre de la coalition gouvernementale qui est pas très en point aussi en Allemagne. Il y a des élections pile dans un an, on verra en effet ce qu'il en sort. Dans la coalition, c'est le plus petit partenaire, et électoralement, dans les dernières élections qui ont été faites, il a approché la ligne de l'éjection, donc dans les représentations des Landtags, où il y a eu des élections. Il est en effet sur une position avec d'autres, il n'y a pas que lui en Allemagne, il y a beaucoup, et à commencer par Scholz un peu, qui a été ministre des Finances fédérales, lui, avant, à être en effet un peu exigeant. Mais on voit bien aussi qu'en Allemagne, tout n'est pas rose. Même si, en effet, leur loi constitutionnelle interdit les déficits et la dette, parce que le même mot en allemand, Schulden, c'est la dette et la faute. Donc, la faute en allemand, c'est la dette. On a en effet ce même vocabulaire. Donc, ils sont très marqués par tout ça. Mais on a une économie allemande qui est touchée de plein fouet par la crise.
Qui est en récession pour la deuxième année de suite.
Qui sont en récession, et qui sont en effet, avec la crise, la guerre en Ukraine, la moindre performance de la Chine, dans une recomposition totale, les voitures, l'énergie, etc. Donc en effet, ils ont aussi à balayer devant leur porte avant de dire ça. Mais Lindner, au niveau européen, c'était celui qui voulait qu'on réintroduise ces fameuses règles budgétaires qui s'appellent le pacte de croissance et stabilité, qui avaient été suspendues pendant la crise sanitaire parce que bien entendu, personne ne pouvait plus les respecter. Et on les a réintroduites avec plus de flexibilité. Mais en effet, elles existent de nouveau. Donc on ne pourra pas dire, tendre le bras, sauf avoir une crise mondiale majeure, on ne pourra pas retordre le bras ces nouvelles règles. Mais on a en effet, nous, un calendrier un petit peu à donner. Il peut être flexible, c'est le mot important, c'est flexible, mais à la fin des fins, il faudra qu'on délivre quelque chose qui soit
crédible. Est-ce qu'on peut se permettre de dire aux Allemands, écoutez, baissez le ton, ça fait des années que vous nous parlez ça suffit.
On ne peut pas se permettre ça, d'autant moins que...
Je vois Christina qui rit.
Les difficultés franco-allemandes ces dernières années sont aussi liées à la situation budgétaire française. C'est pour ça aussi qu'on a du mal à discuter avec les Allemands depuis des années, qu'on n'arrive pas à faire avancer l'Europe. Mais le paradoxe, c'est qu'au niveau européen, il y a un certain nombre de dirigeants qui ont une réflexion sur l'idée que la dépense nationale, dans un certain nombre de sujets, n'est pas efficace. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas une dépense européenne plus importante et plus structurelle?
Mais les Allemands ne veulent plus, ça.
Mais il y a un moment où ils n'en veulent plus, mais ils en ont besoin. Et le rapport Draghi va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est en train de décrocher à la vitesse de l'éclair, et s'il n'y a pas une action structurelle de l'Europe avec une capacité de dépense en matière d'innovation et de recherche qui est, quand on coupe, c'est le premier poste qui est arrêté, c'est
l'innovation,
la recherche.
Bien sûr,
c'est le seul poste qui nous garantit de la compétitivité et de la croissance à moyen long terme. Donc en fait, et la question qui se pose, c'est est-ce que l'effort de R&D, l'effort d'innovation ne doit pas être mené et massivement au niveau européen? Et Et finalement, la difficulté française et l'inefficacité de la dépense publique française va plutôt dans ce sens-là. Donc, on va voir comment les choses vont avancer. Mais ce que dit Draghi, c'est que si on ne fait pas ça, dans 5 ans, on n'est nulle part. Et l'économie européenne, elle sera nulle part.
Christina Van Bergen, donc à Florence. Oui. Comment est-ce que vous voyez cette petite pique des Allemands aux Français? Oui, allez-y, Christina.
Eh bien, on peut se poser la question, pourquoi le ministre des Finances allemand, Christian Lindner, se mêle dans les affaires budgétaires françaises? Bon, Lindner a pour habitude de créer des remous.
Parce que ça marche toujours, politiquement. Politiquement, ça marche toujours, vous savez bien.
Oui, oui. Mais on comprend que, aussi que si la France se trouve en difficulté, cela affecterait l'ensemble de la zone euro. Et à ce niveau, c'est une préoccupation commune, tout comme l'austérité allemande l'a été. Donc, les dynamiques, disons, politiques en France sont particulièrement toxiques pour les investisseurs, mais aussi pour le gouvernement allemand.
Oui.
La France a, on le sait bien, une coalition qui n'arrive pas à s'entendre sur des baisses d'impôts et qui n'a pas la majorité à l'Assemblée. Et donc, la réunion d'hier entre Michel Barnier et les macronistes s'est mal passée, tant sur le fond que sur la forme. Et cela a rappelé que les deux camps ne sont pas sur la même longueur d'onde.
Oui, donc, oui.
Gabriel Attal et Gérald Darmanin,
oui.
Ainsi que les jeunes députés veulent sauver l'héritage du macronisme, et Barnier doit faire adopter un budget dans les délais records. So, Barnier travaille sur des échelles de temps différentes et avec des sensibilités différentes. Ceci est clair. Et aussi, il y a aussi la lecture des résultats électoraux qui divergent. Barnier semble dire que les macronistes devraient comprendre qu'ils ont perdu les élections et ils ont laissé un désordre fiscal à nettoyer. Mmh. Tandis que les macronistes rappellent au Premier ministre qu'il ne peut rien faire sans eux. Et donc, les deux points sont vrais.
Et, oui.
Et donc, c'est très complexe.
Sauf qu'en Allemagne, on arrive à discuter, à s'entendre. En France, on n'est toujours pas capable de ça, voyez, Christina.
Parce que le système électoral est différent, parce qu'en effet, c'est une habitude en Allemagne, comme dans tous les autres pays. Hein, regardez les Belges, par exemple, qui ont eu des élections législatives le même jour que les élections européennes, n'ont toujours pas de gouvernement. Nous, en France, on nous a bassinés après les Jeux Olympiques en disant « mais c'est scandaleux qu'il n'y ait pas de Premier ministre ». Il n'y a toujours pas un nouveau Premier ministre en Belgique, et ça n'empêche pas le Royaume de Belgique de fonctionner. Donc, il y a ça aussi, cette attente des Français d'avoir un gouvernement pour mieux lui taper dessus après, quoi qu'ils disent. Michel Barnier a fait une annonce, donc il y a déjà des gens qui râlent parce que ça va pas dans le bon sens. Il aurait dit la chose différente et il y en aurait d'autres qui auraient râlé. Et quand il va y avoir les amendements, puisque bien entendu, il va y avoir les amendements, la discussion budgétaire, là c'est pendant 2 mois, Assemblée nationale et Sénat.
C'est formidable.
Donc jusqu'à Noël, grosso modo, jusqu'au 20 décembre. Et donc il va y avoir encore des amendements. Donc voilà. Donc, on a en effet un narcissisme sur cette vie politique, alors qu'en effet,
mais,
comme le dit Guillaume, il y a un moment donné où il faut qu'on se regarde autrement qu'avec notre nombril et qu'on se dise mais quelle image on donne à l'extérieur, en effet, pour le coup, l'image de la France en pâtit. Et son influence peut en pâtir aussi.
Oui, et je pense, il reste 2 minutes, c'est le mot de la fin, je pense aux agences de notation, parce qu'on lisait Fitch parle ce soir, Moody's dans 15 jours, Standard & Poor's dans 1 mois et demi, les agences vont regarder tout ça, regardent ce qui se passe, vont regarder tout ce qui va se passer au Parlement dans les prochaines semaines. Ça aussi, ça peut être dévastateur.
Aucune agence, les agences ont prouvé à l'égard de la France qu'elles n'ont pas envie de rajouter de l'huile sur le feu. Donc, elles peuvent dégrader, enlever un plus, on peut passer de B à, à plus, à B, tout ça. Si elles le font, elles le feront de manière modérée et progressive. Le problème, en fait, c'est que la situation française, elle pèse déjà sur les taux français et elle pèse aussi sur l'euro, c'est-à-dire sur tout le monde. Et donc, on a un impact systémique. Donc, on a une responsabilité assez collective et je trouve que les autres États membres et même la Commission, pour l'instant, ils sont très sympas avec nous. Mais si ça continue
à déraper... M. Lindner était en campagne électorale, vous me direz.
La vérité, c'est qu'on a pu déraper sans que ça nous coûte trop cher, parce que d'un côté, l'argent longtemps n'a pas été cher, et on croyait que l'argent ne serait pas cher toujours. Et la vérité, c'est qu'il est redevenu cher.
Et les conditions d'emprunt sont moins bonnes.
Les conditions d'emprunt sont moins bonnes.
On a aujourd'hui, enfin, il faut quand même le dire à nos téléspectateurs, on emprunte à un taux qui est quasiment celui de la Grèce.
Oui.
Et donc, le taux de référence est
un peu plus cher que l'Espagne.
Et on s'en est éloigné On s'en est éloigné. Et donc, à un moment donné, cette image,
pendant des années, on a vécu dans un rêve.
Voilà. Donc, il va falloir se réveiller et prendre en effet des mesures courageuses, pas forcément populaires, mais courageuses. Enfin, le Premier ministre a dit qu'il était prêt à assumer cette impopularité. Il était là, non pas pour donner des gages de popularité, mais pour vraiment rentrer dans le.
Et on
peut compter sur lui, certainement, pour essayer de faire bouger, même si c'est un tout petit peu, mais tout pas en avant et va dans la bonne direction.
On rentre dans un moment où il y a une énorme incertitude sur l'avenir de l'économie mondiale.
La Chine,
c'est inquiétant. Les États-Unis, il y a les élections. Et donc, tout peut déraper, en fait.
Tout peut déraper. Il faut croire
en la question.
Courage.
10 secondes, Christine. Christine, allez-y. Tout 10 secondes pour finir.
Oui, non, je voulais dire que pour moi, la question cruciale est de savoir si ce budget entraînera finalement la chute du gouvernement de Barnier.
Oui.
Les partis d'opposition ont leur chance, mais il appartient en fin de compte aux partenaires de la coalition de montrer qu'ils peuvent assumer une responsabilité commune face au. C'est ça l'essentiel.
Eh bien, nous verrons ce qu'il en sera lors de cette discussion budgétaire qui va commencer dans quelques jours du côté de l'Assemblée nationale.
En tout cas, je remercie Christina parce qu'elle suit bien l'actualité française.
Elle est très au courant.
Parce que vraiment, même moi, je ne suis pas forcément toujours tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
Allez, c'est fini, mais il y aura de quoi s'amuser dans les prochaines semaines. Merci à tous les trois d'être venus. Merci Christina d'avoir été avec nous. Christina Van Bergen, professeure à l'Université de Florence. À très vite, avec grand plaisir. Pascal Johannin, merci d'être venu. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Guillaume Closa, président d'Europe. Panova. Merci à tous, à très vite, avec plaisir, 18h56. Dans un instant, je vous redonne les grands titres de l'actualité, puis les pionniers chez Fred Mazzella pour vous accompagner jusqu'à 20h, bien sûr. À tout de suite.